chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Seconde partie, Victor Schœlcher. Victor Schœlcher est né le 22 juillet 1804 à Paris, Faubourg Saint-Denis, dans une famille bourgeoise, aisée et catholique. Son père, né en 1766 et décédé en 1832, est un porcelainier à la tête d'une entreprise florissante. Victor fait ses études au lycée Condorcet, fréquente Hector Berlioz, rencontre Franz Liszt. Toute sa vie, il restera un grand amateur de musique et en exil en Angleterre se fera spécialiste du prolifique Handel. Il y croisera également Victor Hugo. Son père l'envoie en 1828, il a donc 24 ans, prospecter de possibles marchés aux États-Unis, au Mexique et aux Antilles, ainsi qu'à Cuba. Dans cette île aux mœurs hispaniques, Victor est horrifié par ce qu'il voit. Les Antilles françaises ne valent guère mieux. Il entre en 1830, certes chargé de commandes, mais révolté. Il se fait alors journaliste, essayiste, rejoint les mouvements abolitionnistes, entre en maçonnerie, voyage beaucoup, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, afin de rassembler le maximum d'informations sur son sujet. Il visite le Sénégal, la funeste île de Gorée, les ports d'embarquement et leurs archives. Ce faisant, il accumule aussi toutes sortes d'objets et d'œuvres d'art. Son père ne contrarie pas son inclinaison. En 1832, Victor, héritier de l'entreprise familiale, la vend dès 1833 et se consacre à la politique. En 1847, c'est la Société pour l'abolition de l'esclavage dans laquelle il enrôle quelques célébrités politiques et intellectuelles. Dès 1832, Victor Schœlcher milite ardemment pour l'abolition, mais se révèle opposé à l'abolition à effet immédiat. Il défend, éclairé par le dénuement moral, éducatif et économique profond des esclaves, une abolition progressive assortie d'une éducation et d'alphabétisation. Beaucoup de planteurs y sont violemment opposés, on devine pourquoi. En 1840, Schœlcher retourne dans la Caraïbe, approfondit son étude, visite les colonies anglaises où l'abolition est effective depuis 1833, ainsi que Haïti, le seul pays indépendant. Survient la révolution de février 1848. Il participe au gouvernement provisoire de François Arago, devient sous-secrétaire d'État aux colonies et à la marine et président de la commission d'abolition. Le décret, dont il est en grande partie le rédacteur, est publié le 27 avril 1848. Il devait entrer en vigueur sous 2 mois, mais des insurrections d'esclaves éclatent en Martinique, réclamant l'application immédiate, ce qui est obtenu. Et elle devient effective le 10 août en Guyane. De 1848 à 1850, Victor Schœlcher siège à gauche, élu député de la Guadeloupe et de la Martinique. Adversaire de l'Empire, il est proscrit, considéré comme agitateur et doit s'exiler en Grande-Bretagne. Dans ce pays, il renforce ses connaissances sur tous les domaines au sein desquels l'individu est abusivement maltraité, voire martyrisé. Après la guerre perdue et l'établissement d'une nouvelle république, il entre en France en 1870. Réélu député de la Martinique en 1871, il siège à l'Assemblée, puis devient sénateur inamovible le 16 décembre 1875. Il milite également pour l'abolition de la peine de mort. En 1877, il fait une proposition interdisant la bastonnade dans les bagnes, ce qu'il obtient en 1880. Il siège, à partir de 1881 avec son ami Victor Hugo, à la commission des réparations indemnisant les proscrits de l'Empire, présidé par le ministre de l'Intérieur et composé de 4 députés et 4 sénateurs. Il essaie aussi, dans le système pénitentiaire, de faire abolir la relégation. Victor Schœlcher, jamais marié, sans enfant, lègue tous ses biens à des institutions caritatives et aux îles dont il fut député. Enterré au cimetière du Père Lachaise, ses cendres seront transférées, en même temps que celles de Félix Éboué, au Panthéon. Mais cette décision, votée en 1938, à l'instigation d'ailleurs de Gaston Monnerville, ne sera exécuté pour cause de conflit mondial que le 20 mai 1949. Aux îles, de nombreux établissements scolaires, de nombreuses rues, avenues et places portent son nom ainsi qu'un escorteur de la marine. Il est connu de tous. La bibliothèque du Sénat conserve de nombreux documents sur ses actions et ses archives. À Pointe-à-Pitre, rue Peignet, sa jolie résidence, peinte en jaune vif, ornée d'enjolivures bleues et fort bien entretenue, recèle ses collections personnelles et quelques documents significatifs. En 1983, la loi 83-550 du 30 juin 1983, publiée au journal officiel le 1er juillet, crée la commémoration de l'abolition, dont les dates dans les différents territoires sont déterminées par le décret 83-1003 du 23 novembre 1983, publié le 24. Dans les collectivités territoriales concernées, la commémoration est fixée à la date de l'arrêt effectif local de l'esclavage. Pour Mayotte, le 27 avril. Pour la Martinique, le 22 mai. Pour la Guadeloupe, le 27 mai. Pour la Guyane, le 10 juin. Pour la Réunion, le 20 décembre. Au surplus, dans l'ensemble de tous les établissements scolaires de la République française, tous les 27 avril, une heure d'enseignement devra être consacrée, d'après le décret, à une réflexion sur l'abolition de l'esclavage. Cela étant, la meilleure façon de s'enrichir ou d'enrichir un pays est de recourir au travail forcé, non ou très peu rémunéré. Cette pratique s'accompagne le plus souvent d'une dépersonnalisation des exécutants. Toutes les sociétés, toutes les époques et tous les systèmes l'ont connu et le connaissent encore. Les goulags et les camps nazis n'en sont que des variantes particulièrement cruelles. Il existe beaucoup de littérature et fort diverse sur le sujet, mais on pourra lire avec intérêt « La traite des Noirs sous l'Ancien Régime » de Hubert Deschamps, sans doute un des meilleurs et des mieux documentés. Les travaux de Victor Schœlcher, notamment de l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale, ainsi qu'une très belle vie de Toussaint Louverture. Un très bel article de Bernard Kapp au Journal du Monde, datant de 2001, mais qui est toujours d'actualité, qui s'intitule « La solution de l'esclavage » et qui est tout à fait remarquable.